In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Plus que quelques jours avant la fin de l'année. Comme d'habitude, vous avez reçu votre convocation à l'entretien annuel avec votre boss. Peut-être que vous faites partie de celles et ceux qui vont en toute décontraction, ou peut-être que vous avez la boule au ventre. Peut-être aussi que l'entretien s'est déjà déroulé et que vous vous demandez ce que vous auriez pu mieux dire ou mieux faire. Dans cet épisode, je vous révèle tout ce qu'il faut savoir pour aborder au mieux ce moment clé. Je suis Camille Maestracci. Bienvenue dans la mini-série de fin d'année de Travail en cours. Pour mieux comprendre l'enjeu de l'entretien annuel, je me suis entretenue avec Philippe Guittet. Il est spécialiste RH et cofondateur de Talent Management Group. Avant toute chose, posons les bases. À quoi ça sert l'entretien annuel ?
Un entretien annuel, c'est un bilan. Donc, comme son nom l'indique, un bilan annuel sur ce qui a été fait donc avec le collaborateur, que ce soit en termes de mission, en termes d'objectifs, faire un point sur les difficultés rencontrées, mais aussi les aspirations du collaborateur, et puis à partir de là, de définir pour l'année suivante quels sont les nouveaux objectifs, les nouvelles missions. Pourquoi pas les évolutions de ces missions, aborder peut-être l'évolution en termes de carrière, en termes de salaire, en termes de formation. Voilà, c'est un temps qui est consacré sur ce qui s'est passé sur les 12 derniers mois pour se projeter sur les 12 prochains mois. J'ai l'habitude de dire qu'un manager et un collaborateur, c'est avant tout un binôme. Et dans tout binôme, il faut qu'on sache très bien qui fait quoi. L'entretien annuel permet justement de faire ces ajustements parce que ça évolue, les gens évoluent, les situations évoluent, et de faire en sorte qu'ils forment le binôme le plus productif possible.
Finalement, c'est un peu comme dans un couple. Pour que ça marche et que ça dure, il faut se réserver des bulles de temps à deux pour communiquer et ajuster ses envies. Mais dans le cadre professionnel, l'entretien annuel est un exercice hyper encadré.
Ce qu'il faut savoir, c'est que l'entretien annuel est une obligation légale. Les entreprises doivent chaque année faire un bilan, donc avec chacun des collaborateurs, sur ce qui a été fait et ce qu'il reste à faire. Maintenant, j'ai envie de dire, c'est comme un bilan comptable. Est-ce qu'on attend la fin de l'année pour savoir comment se comporte l'entreprise, comment est la trésorerie, comment vont les affaires ? Non. L'entretien annuel est une obligation légale. C'est un outil qui peut être utile, comme un bilan comptable, mais ça ne doit pas être le seul outil. J'ai envie de dire, le manager... Des entretiens annuels, il devrait en faire tous les jours. Peut-être pas aussi poussé, mais régulièrement s'entretenir avec ses collaborateurs, ses équipes, pour voir justement qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas, surtout dans un environnement comme celui d'aujourd'hui, où les choses peuvent aller très vite et de manière très violente. On en revient à l'histoire du Covid, mais en quelques jours, tout a été chamboulé. Donc, est-ce qu'on doit attendre 12 mois pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire ? Non.
Bon, mais admettons qu'on soit dans une configuration où on ne fait pas des points avec notre manager tous les mois. Comment est-ce qu'on prépare cet entretien annuel ?
Alors, comment on le prépare ? Déjà avec ce qu'on appelle communément des indicateurs de performance. Alors, ça peut être des chiffres, comme ça peut être la résolution de problèmes. De rappeler aussi un petit peu l'histoire. C'est-à-dire, depuis 12 mois, qu'est-ce qui s'est passé en début d'année, en milieu d'année, en fin d'année, quels sont les problèmes que j'ai rencontrés, ce que j'ai fait. Donc, toujours pareil, se valoriser. D'accord, montrer ce qu'on a fait, les résultats obtenus, et aussi parler des difficultés que l'on a rencontrées, et dans ce cas-là, voir comment on apparaît à ces difficultés. D'accord, est-ce qu'on a baissé les bras, est-ce qu'on a essayé de trouver des solutions, est-ce qu'on a pris des initiatives? Le but, c'est de montrer que, d'un point de vue du collaborateur, oui, non seulement on a fait le boulot, mais on l'a bien fait, voire on a fait même un peu plus que ce qui était attendu, ce qui peut-être la base de négociations salariales ou d'évolution de carrière.
Ce que dit Philippe Guittet, c'est qu'il faut arriver avec une sorte de book qui retrace les grandes étapes de notre année, avec nos succès et nos échecs, histoire de faire un bilan détaillé et de pouvoir rebondir sur du concret. Mais difficile de rester objectif quand on n'est pas à l'aise avec cet exercice. Ce qui pose la question de la posture. Quelle attitude doit-on avoir lors de l'entretien annuel?
Il faut que le collaborateur mette en perspective ce qu'il a réalisé. S'il a fait moins 10% de chiffre d'affaires, si les autres ont fait plus 30%, oui, c'est une contre-performance. Si les autres ont fait moins 30%, c'est une performance. Donc, c'est aussi au collaborateur de dire, voilà les circonstances, voilà les problèmes qui ont été rencontrés, voilà les difficultés qui se sont présentées sur le chemin, et malgré ça, j'ai réussi à faire ça, 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 et voilà comment j'ai montré ma créativité, ma détermination, mon apport en termes de solutions, ma disponibilité, ma souplesse. C'est à lui de se valoriser. Maintenant, se valoriser, ça ne veut pas dire qu'on a été parfait. Hein. Et puis, de toute manière, l'employeur, lui, cherche pas la perfection. Il veut juste quelqu'un qui fait bien son travail, qui fait bien ses missions, qui essaye d'atteindre ses objectifs, voire de les dépasser, ni plus ni moins. Et, je veux dire, de toute manière, il sait très bien qu'il n'a pas à faire un Superman en face. Hein. Et c'est pas ce qu'il attend. Mais il veut savoir si est-ce que ça vaut le coup de donner plus d'argent, de donner plus de responsabilités, plus de grades. Il a juste besoin de ça. Maintenant, si le collaborateur ne se valorise pas, pourquoi voulez-vous que spontanément j'aille le gratifier si finalement il donne l'impression de n'avoir fait que son boulot?
Je vous vois déjà trembler devant l'idée de vous mettre en avant devant votre boss. En même temps, ce que Philippe Guittet explique, c'est que tout ça a un sens et surtout un but, la reconnaissance. Et par là, j'entends bien sûr la gratification par le salaire, mais pas que.
Souvent, l'entretien annuel, je veux dire, c'est la question qui touche tout le monde, c'est l'histoire du salaire. Hein, voilà. Si j'atteins mes objectifs, je veux gagner plus ou je veux des primes. Et là, on discute sur comment rétribuer financièrement les efforts du collaborateur. Ça peut être aussi, selon les situations de chacun, d'exprimer peut-être des envies d'autre chose. Hein. Quand je parle d'envie d'autre chose, c'est peut-être des prises de responsabilité. Hein. Dans ce cas-là, on passe des échelons supérieurs, on devient peut-être soi-même manager, ou alors des envies de diversité, j'ai envie de faire autre chose, peut-être plus de gestion, plus de management, plus de commercial, plus de marketing, ou changer de produit ou de type de projet. Ça peut être aussi, parce que c'est souvent ça qui revient régulièrement, c'est des besoins de formation. Parce que tout d'un coup, on s'est retrouvé face à un outil qu'on ne maîtrisait pas, ou parce que il y a des envies d'évolution qui passent par certaines formations, et c'est le moment d'évoquer cette possibilité de se servir de la formation comme un tremplin. Donc c'est souvent les trois quatre sujets. Après oui, il y a les conditions de travail qui sont entre guillemets d'actualité avec ces contraintes sanitaires. Je veux dire travailler en présentiel, au contraire, je veux rester chez moi. Il y a de plus en plus de cas de collaborateurs qui demandent clairement à ne plus revenir au bureau parce qu'entre-temps, ils ont changé de région. Hein, ils étaient en région parisienne, ils sont partis en Bretagne, ils sont partis dans le sud. Donc on peut aborder tous ces sujets-là.
Ça, c'est pour les sujets à mettre sur la table. À l'inverse, Philippe Guittet alerte sur ce qu'il faut éviter de dire ou faire pendant l'entretien annuel.
Ce qu'on évite, ça ne veut pas dire qu'il faille pas en parler, mais l'entretien annuel n'est pas forcément fait pour ça. C'est les problèmes relationnels entre les collaborateurs. Ça peut se régler en cours d'année, mais il faut pas oublier que l'entretien annuel, c'est un document que l'on remplit, qui est archivé, qui doit être diffusé. Je veux dire, notamment auprès de l'inspection du travail. On y évoque ce qui tourne autour du métier, toute considération, j'allais dire, personnelle. C'est pas franchement le lieu. Alors, il n'y a pas d'interdiction, hein. Vous pouvez évoquer absolument tout, mais c'est pas franchement le lieu. Ça, c'est quelque chose qui doit se gérer au quotidien.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Maintenant, attention, l'entretien annuel est un entretien ouvert. Si le collaborateur veut exprimer des choses personnelles qui impactent, et ça peut se comprendre, qui impactent la réalisation de ses missions, on doit l'écouter, on ne doit pas lui interdire de ne pas en parler. Mais il faut que ça débouche sur quelque chose d'ordre professionnel.
Pour résumer, voici les trois conseils de Philippe Guittet pour bien aborder cet entretien annuel côté manager.
Alors, trois choses, c'est déjà de faire quelque chose qui soit équilibré. Ne pas faire que du positif, que du négatif. Et le négatif, le présenter non pas comme des échecs, mais comme des axes de progression. La deuxième chose, un collaborateur a besoin de savoir non seulement où est-ce qu'il en est, mais comment il peut progresser. C'est-à-dire que même sur les axes d'amélioration, il faut montrer que c'est à la portée du collaborateur, qu'il peut y arriver, qu'il peut progresser, si on veut vraiment que le collaborateur continue de s'engager. Et puis le troisième conseil, c'est voilà, ne gâchez pas ce moment-là, parce que c'est votre image, c'est l'image de l'entreprise qui est en jeu, et mieux cet entretien sera préparé, bien sûr mieux il va se dérouler, mais la relation s'en sortira beaucoup plus solide et beaucoup plus forte.
Et côté employé alors, quelles sont les trois choses à bien garder en tête ?
Préparation. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai réussi, les points sur lesquels j'ai eu des difficultés, voilà, prendre conscience de sa valeur, mais aussi de ses points faibles, préparation, argumentation, construction d'un fil conducteur, et ainsi de suite. Ça, j'ai dire, c'est la première chose. Le deuxième conseil, c'est ne pas avoir peur de se valoriser. Je vais être un petit peu choquant, mais la modestie rapporte pas beaucoup. Et le dernier conseil, c'est dire aussi ce que l'on attend de cet entretien annuel. Pour que le manager comprenne que le collaborateur a besoin que son manager le guide, lui donne de la perspective. C'est-à-dire que si le collaborateur, lui-même n'indique pas d'envie particulière, le manager n'ira pas dans son sens. Donc, il ne faut pas que le collaborateur fasse, j'ai dit, les mêmes erreurs que le manager, c'est-à-dire bâcler cet entretien annuel. C'est une occasion qui est donné de s'exprimer, exprimez-vous, utilisez ce temps-là pour progresser et puis pour obtenir des résultats de la part de l'encadrement.
De manière générale, ce que dit Philippe Guittet, c'est que l'on soit employé ou le patron ou la patronne, on a tout à gagner à ce que cet entretien annuel se passe bien.
Que ça peut être un outil de motivation extraordinaire, bien au-delà de la revalorisation salariale. On est tous des êtres humains. Quand vous êtes considérés, quand on vous fait confiance, quand on vous donne une certaine liberté de montrer de quoi vous êtes capable, et grosso modo où on envoie le message, je crois en vous, j'investis en vous parce que je sais que le meilleur est à venir et que vous avez un fort potentiel. Je peux vous dire que ça vaut beaucoup plus que les 50 euros mensuels que je vais vous donner l'année prochaine.
Et en tant que manager, qu'a-t-on à gagner à bien préparer cet entretien ?
Je vais sûrement choquer certains, mais moi, un collaborateur que je paye X euros, pour X euros, je préfère qu'il me donne 120% de son potentiel que 80%. Donc, si l'entretien annuel permet d'augmenter son implication, sa motivation, son efficacité, s'il progresse, s'il développe de nouvelles compétences, apporte de nouvelles idées, propose des choses, des solutions, j'allais dire, si pour le même tarif j'ai tout ça, pourquoi j'irais m'en priver ? Surtout que ça, honnêtement, ça me prend une heure de temps, bien préparé, allez, c'est 3 heures de temps, mais si ça me garantit que dans les 12 prochains mois, mon collaborateur va donner son maximum, j'ai tout à gagner à bien préparer l'entretien annuel. Par contre, j'ai tout à perdre à le bâcler parce que ben, le collaborateur, ben, s'ils ne sont pas considérés, pas motivés, qu'ils ne voient pas l'intérêt de s'impliquer plus que ça dans sa mission et dans l'entreprise, eh ben, il fera ce pourquoi il est payé, il fera 9h-17h du lundi au vendredi, il touchera sa paye parce que tout le monde il attend rien d'autre. Hein. Et ça, c'est contre-productif pour une entreprise. Hein.
Mieux vaut, de part et d'autre, accepter de dédier du temps à ce rite annuel et bien s'y préparer. Pour l'entreprise, on peut provoquer un regain de motivation et de productivité. Et côté employé, décrocher une augmentation de salaire, par exemple. Dans les deux prochains épisodes de cette mini-série, on vous dit tout ce qu'il y a à savoir sur les négociations salariales et les conseils pour faire pencher la discussion en votre faveur. Vous venez d'écouter Travail en cours, un podcast de Louis Média. Si vous souhaitez nous partager votre histoire par rapport au travail, vous pouvez nous écrire à hello@louismedia.com. Louise Emerlé est chargée de production. Marine Kéméré était au montage et à la réalisation. La musique est de Jean Thévenin et le mix a été fait par le studio La Fugitive. Marion Girard est responsable de production et Maureen Wilson, responsable éditoriale. Mélissa Bounois est à la direction des productions et Charlotte Pudlowski à la direction éditoriale. Vous pouvez nous retrouver là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts, Deezer, iTunes, Spotify, SoundCloud. Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires et des étoiles. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et si vous aimez ce podcast...
Bonjour, ici Louis Vindel. Vous m'avez peut-être écouté dans Passage, aux côtés de Solal, mais aujourd'hui je vous dis deux mots sur Lettre Zola, une publication soutenue par Louis Média. La promesse de Lettre Zola, c'est d'amener la littérature dans votre boîte aux lettres. Chaque mois, recevez un texte original et inédit par une jeune plume française. Un petit livre d'une cinquantaine de pages, grâce auquel vous pourrez vous plonger dans un sujet de société et découvrir les nouveaux visages de la littérature contemporaine. Mathieu Palin, Blandine Rinkel, Arthur Dreyfus... Abigail Assor, François-Henri Désérable et bien d'autres. Vous pouvez vous abonner à partir d'un peu plus de 6 euros sur www.lettrezola.fr. Bonne écoute et bonne lecture.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Découvrez les autres podcasts de Louis, Émotion, Le Book Club, Injustice, Passage. À bientôt.